Les États-Unis ont posé leur veto à la nouvelle résolution sur le cessez-le-feu qui avait été présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était avant-hier, souvenez-vous. On en parle, enfin, Lucie Gilson en parle avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, j'y arriverai, et enfin, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On écoute leur échange.
David Rigoulet-Rose, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier une résolution sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur les résultats de ce vote. Le projet a recueilli 13 voix pour, une abstention, le Royaume-Uni, et un vote contre, les États-Unis, qui a opposé son veto. Donc, en quoi ce veto est-il significatif aujourd'hui ?
Le projet de résolution qui était présenté par l'Algérie relatif à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel donc ferait l'objet d'un veto. Donc ça, c'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la configuration du vote, effectivement. Donc il y a le veto américain qui a été immédiatement stigmatisé par Zhang Jun, qui est l'ambassadeur chinois à l'ONU, en disant que ça rendrait la situation encore plus dangereuse. Il y a l'abstention des Britanniques et fait notable et assez inédit. Ça fait écho quand même à une position formulée par le prince William qui appelle justement à la fin de la guerre dans la mesure où, selon lui, il y a eu trop de morts dans le conflit. Je dis inédite parce que, en principe, la famille royale ne se prononce pas publiquement. Ça relève du gouvernement, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une abstention du gouvernement britannique. Et puis, sur les 15 membres, les 13 autres ont voté pour, dont les 3 autres membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence France comprise. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une forme d'isolement des États-Unis dans le soutien à Israël. C'est ce qui est préoccupant, évidemment, pour Israël. Alors, le veto a été justifié par l'ambassadrice américaine, Linda Thomas Greenfield, en disant que les États-Unis travaillaient de leur côté à un accès, à un accord pour les otages entre Israël et le Hamas, qui prévoirait éventuellement une suspension pour 6 semaines, et que le projet de l'Algérie était susceptible de faire capoter les discussions. Donc c'était une manière de légitimer le veto, mais ça n'enlève rien au malaise croissant effectivement de l'administration américaine qui est de plus en plus perceptible.
Oui, voilà. Alors c'est ce que je voulais dire. C'est donc une proposition qui avait été proposée par les pays arabes. Est-ce que c'est représentatif on rebat les cartes un peu dans les est-ce que c'est un retournement de situation en fait dans le poids et les forces en présence
en l'occurrence présenté particulièrement par l'Algérie dans le prolongement de la décision de la Cour internationale de justice par rapport à une requête qui avait été déposée par l'Afrique du Sud. Quand on regarde la composition du Conseil de sécurité, c'est l'Algérie est le seul pays arabe. Mais effectivement, ça renvoyait l'ambassadeur Amar Benjama, l'ambassadeur d'Algérie, considéré de manière pour mettre évidemment les votants au pied du mur que le vote pour ce projet était un vote pour soutien aux droits des Palestiniens. À l'inverse, voter contre signifiait un soutien à la violence brutale et la punition collective infligée aux Palestiniens. Fermer les guillemets. Donc effectivement, il y avait une prise de position proactive de l'Algérie et c'est précisément ce qui a été bloqué par les États-Unis concernant la perspective d'un éventuel cessez-le-feu. Le texte américain de substitution qui serait éventuellement présenté, mais pour l'instant il n'y a pas de programmation officielle, ce serait un cessez-le-feu temporaire. Si les otages étaient libérés et une levée des obstacles faits justement à l'aide humanitaire et en même temps, me semble-t-il, dans le texte le projet américain, en signalant qu'une opération militaire israélienne ne pourrait avoir lieu dans les conditions actuelles. Donc si c'est bien le texte qui est formulé par les Américains, c'est effectivement une manière de montrer qu'il ne peut pas y avoir un soutien inconditionnel. Et ce serait un appel implicite à un changement de stratégie d'Israël, justement du fait de l'isolement de Washington par rapport aux autres membres du Conseil de sécurité.
Et justement, ce projet-là, en parallèle, vous l'avez dit, les États-Unis préparent un projet alternatif. Est-ce que c'est un projet qui a des chances d'aboutir, sachant qu'on sait déjà qu'un certain nombre de pays du Conseil vont déjà opposer leur veto?
Oui, c'est pas exclu qu'effectivement Moscou et Pékin mettent leur veto au projet américain. Non pas parce qu'il serait inutile, mais parce qu'il le jugerait insuffisant au regard de celui qui était présenté par l'Algérie. Et donc ce serait une manière effectivement de mettre en difficulté les États-Unis et les veto qu'ils ont utilisé pour la troisième fois sur la question. Sans parler de l'isolement aussi par rapport aux Européens, puisque on a vu que au niveau de Bruxelles. Alors évidemment avec l'exception de la Hongrie de Viktor Orban, mais clairement il y a une situation d'isolement accru, d'abord en termes d'opinion publique pour Israël et en termes effectivement de, on va dire au niveau de l'instance onusienne pour les États-Unis.
Alors et effectivement. La résolution s'oppose à toute offensive terrestre majeure d'Israël à Rafah, et on a l'impression que cette potentielle offensive est un peu au cœur de toutes les crispations aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les craintes de la communauté internationale au sujet de cette opération ?
Oui, les craintes ont été formulées par beaucoup de pays. Et dont les États-Unis du reste, hein. Et c'est pour ça que ça ferait partie effectivement du projet de résolution alternatif américain que vous évoquez, puisque les Américains, l'administration, le département d'État ont considéré que en l'état actuel des choses, ils ne pourraient pas soutenir une opération compte tenu du fait qu'il n'y avait pas assez de garanties justement d'évacuation notamment des populations civiles et de préservation de ces populations civiles. Donc c'est le nœud central du problème, parce qu'en plus il y a une intransigeance israélienne qui a été exprimée par Benjamin Netanyahou en disant que de toute façon il y aurait cette opération, et du reste Benny Gantz, qui fait partie du cabinet de guerre, et nonobstant les oppositions qui peuvent exister entre les membres du cabinet de guerre, a confirmé que effectivement il y aurait une opération de ce type à d'ici le 10 mars prochain, qui est le début du Ramadan, et c'est une manière de mettre une pression supplémentaire évidemment sur le Hamas.
Est-ce que c'est possible que cette résolution finisse par avoir un impact réel en fait sur les intentions d'Israël de poursuivre cette guerre ?
En tout cas, Israël ne peut pas ne pas considérer effectivement qu'il y a un malaise au niveau des opinions publiques internationales, voire davantage, et surtout un malaise de la part de l'administration américaine. Et Israël ne peut pas se passer d'un appui américain. Donc c'est un élément effectivement important pour le gouvernement israélien. Il est obligé de tenir compte de cette réalité. Quel que soit le soutien par ailleurs qui a été confirmé par les États-Unis, il y a la nécessité de prendre en compte cet isolement américain en réalité, qui est le soutien essentiel d'Israël dans le conflit. Et il y a des arbitrages compliqués qui vont devoir être faits, notamment au sein du cabinet de guerre, puisqu'on sait qu'il y a des tensions qui traversent les membres du cabinet de guerre, qui sont pas tous sur la même ligne. Notamment par rapport, non pas tellement à l'opération en cours, mais notamment par rapport à la négociation sur les otages. Il se trouve que c'est un des volets des résolutions qui ont été examinées.
Alors j'allais le dire, ce volet-là va également être mis sur la table au cours de la visite de Brett Macker, qui est le conseiller spécial de la Maison-Blanche, qui a été dépêché cette semaine. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces discussions ?
Elle risque d'être compliquée, parce qu'il y a de la part de Benjamin Netanyahou une forme d'obstruction en considérant à tort ou à raison que seule la pression militaire maximale est susceptible de rendre possible une libération des otages, alors que même les États-Unis considèrent qu'il faudrait au moins une pause temporaire pour finaliser un accord potentiel et donc éventuellement convaincre le Hamas de revoir à la baisse ses exigences qui sont jugées maximalistes et irréalistes de part et d'autre pour toutes les parties. Mais en l'occurrence effectivement il y a un diagnostic qui n'est pas exactement le même entre les États-Unis et Israël sur cette question spécifique des négociations pour les otages.
Et à plus long terme, si on voit à plus long terme, comment est-ce que on peut anticiper un développement futur de cette situation qui paraît un peu coincée, du coup ?
Bah, à plus long terme, c'est la question centrale, c'est le jour d'après. Et là, on sait que les dissensions entre Washington et le gouvernement israélien sont très fortes. Elles sont très fortes, elles ont été avérées publiquement. Ce qui n'est pas anodin, oui. Effectivement, puisque les États-Unis considèrent que de toute façon, une perspective de sortie de crise ne peut que intégrer la solution à deux États, ce qui est catégoriquement refusé par Benjamin Netanyahu, évidemment poussé par ces deux ministres d'extrême droite, en l'occurrence Smotrich et Ben-Gvir. Et donc là, il va y avoir un problème majeur, parce que la question se posera de toute façon de l'administration de l'enclave ou ce qu'il en reste, parce que le gouvernement israélien ne veut pas entendre parler d'une option qui serait une émanation de l'autorité palestinienne, même revitalisée comme le souhaitent les Américains. Donc les vraies questions vont se poser rapidement de toute façon, et ces difficultés au sein des instances internationales auront aussi un rôle dans les arbitrages futurs.
Eh bien, David Rugueleros, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous.